RCF.
Cogiteo avec le père Jacques Versinger.
Bonjour père Versinger, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, bonjour Marie-Pierre.
Ah, ça fait longtemps. Hein.
Oh là, une éternité.
Bien sûr. Alors, comment allez-vous ?
Eh bien, écoutez, depuis la dernière fois, pas trop mal. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, entre autres détails ? Christ est ressuscité, voilà.
Oui, ben justement, vous me tendez une très belle perche, puisque j'avais envie qu'on parle de la résurrection.
Eh bien, soit.
C'est pas très original pour une émission de catho, mais bon...
Non, mais bon, c'est quand même dans l'air du temps.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, alors donc la résurrection, on dit que c'est le fondement de la foi chrétienne.
Oui.
Est-ce qu'on peut être chrétien si on ne croit pas à la résurrection ?
Non.
C'est absolument impossible.
Bah, dis donc, on va apporter des nuances quand même, mais c'est quand même le cœur de la foi chrétienne. On va peut-être approfondir ça, mais il y avait une expression très très forte de saint Paul qui disait, je crois aux chrétiens de Thessalonique, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi et vaine notre espérance, et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc il visiblement, et dans un des textes les plus anciens du christianisme, on marque bien le lien étroit entre la foi en la résurrection du Christ et la foi chrétienne.
D'accord. La résurrection du Christ peut être le cœur de notre foi, mais est-ce que ça implique forcément que nous-mêmes nous ressuscitions ?
Ah non, ça ne l'implique pas automatiquement, mais c'en est la condition. C'est-à-dire que si le Christ n'est pas ressuscité, je ne vois pas comment nous pourrions ressusciter.
Mais est-ce que c'est sûr qu'on va ressusciter ?
Ah non, ça c'est autre chose. J'ai dit, si le Christ est ressuscité, il n'est pas possible que nous ressuscitions s'il n'est pas ressuscité. Mais
oui,
si Christ est ressuscité, alors il est possible que nous ressuscitions.
Ok, d'accord. Oui. Ok, donc en fait, la résurrection du Christ est le cœur de la foi chrétienne, mais pas notre résurrection à nous.
Ah non, j'espère ressusciter, et allons jusqu'au bout, j'espère même que vous ressusciterez, ma chère Marie-Pierre.
Bon, bah, je vous remercie.
Non, c'est normal, c'est tout naturel. mais ceci dit, si la résurrection du Christ est donc la condition sine qua non de notre résurrection, pour ressusciter avec lui, il faut que nous adhérions à ce qu'il est, nous adhérions à son message, c'est-à-dire que nous ne pourrions pas ressusciter, c'est-à-dire entrer dans la vie de Dieu, si tout ce que nous sommes refuse énergiquement cela. Si notre vie est fondée uniquement sur l'espérance, d'une vie terrestre la plus...
confortable.
Oui, c'est ça. Mangeons et buvons tant que nous pourrons, car nous mourrons. C'était un dicton à l'époque. Mmh. Et donc, si notre vie ne repose absolument pas d'aucune manière sur la moindre des valeurs de l'Évangile, alors je ne vois pas très bien ce que signifie ressusciter pour nous.
Oui, mais alors moi, là, dans ce que vous dites, c'est quand même un petit peu confus, parce que il ne suffit pas de croire pour ressusciter quand même.
Ah non, non,
parce que vous dites, ah bah oui, mais si on... Si on vit pour le présent, on ne pourra pas ressusciter. Ben, on n'en sait rien.
Non, si on ne vit que dans cette perspective-là, c'est-à-dire que...
On ne peut pas croire à la résurrection. Mais est-ce qu'on ressuscitera quand même ?
C'est pas un problème de foi. Ce que je veux dire, c'est que la vivre l'Évangile, c'est pas simplement dire je crois en Dieu. Justement, le Christ est parti en guerre, si je puis dire, régulièrement contre ceux qui confondaient les idées et la réalité, et qui, sous prétexte qu'ils disaient Seigneur, Seigneur, ou qu'ils se lavaient les mains 30 fois par jour, ou je ne sais pas quoi, pensaient avoir des droits sur Dieu. Bon, la résurrection n'est pas fondée là-dessus. C'est pour ça que...
Il ne suffit pas d'y croire pour que ça advienne, il faut aussi agir, quoi.
Il faut y croire, entre guillemets, existentiellement. C'est-à-dire que des gens qui n'ont peut-être même pas idée de ce que peut signifier le mot Dieu, mais qui fondamentalement essayent de vivre une ouverture aux autres. Bon, Ouais. Voilà, et là, on est dans l'évangile.
Donc, c'est, donc ils ressusciteront peut-être ces gens-là.
Mais oui, Saint Jean disait, nous sommes déjà ressuscités. Dans la mesure où nous vivons dans un amour authentique, nous sommes déjà ressuscités. Hein. Alors, il ne le disait pas en disant qu'on était complètement ressuscités, mais qu'on était déjà dans cette dynamique de résurrection. Hein. Mais,
oui, alors...
mais quand la vie se fonde sur l'amour et
oui,
pas
oui.
simplement quand elle se fonde sur des croyances, même les plus fortes possibles.
Enfin, entendons-nous bien, cette résurrection qui se vit par l'amour,
oui.
c'est une résurrection spirituelle. Enfin, je veux dire, c'est une renaissance, c'est on pourrait dire une,
ah bah c'est
une sorte de métamorphose intérieure spirituelle. Mais est-ce que ça implique forcément qu'on ressuscite avec son corps?
Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. La question du corps, de toute façon, dans la Bible est assez compliquée, puisqu'on sait très bien que le mot s'applique à des réalités variables. Pour nous, le mot corps, immédiatement, c'est mon corps biologique constitué de mes atomes. Dans la Bible, le corps, comme le dirait aussi saint Paul, vous êtes le corps du Christ.
Mmh.
Vous êtes le corps du Christ. Ou comme Jésus peut prendre du pain et du vin et dire ceci est mon corps.
Ah oui, donc peut-être la résurrection du corps, ça serait la résurrection du corps de l'Église et que ce serait plutôt quelque chose de collectif.
Il y a forcément en moi, il y a quelque chose de collectif. Je veux dire, si je ressuscitais, mais séparé
en tant qu'individu.
Oui, mais en tant qu'individu, c'est-à-dire sans plus aucun lien. Voilà, très bien, je vais l'éternité sur une île déserte, quoi. Ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. La résurrection, c'est un renouvellement de tout ce que je suis, y compris toutes mes relations avec les autres.
Mmh.
Hein. Et autrement, ça n'a
donc
pas de sens.
Je ressuscite avec tous les liens que j'ai créés.
Oui, et des liens, j'allais dire, assainis, purifiés, solidifiés. Mais la résurrection est nécessairement et d'abord spirituelle.
Oui, c'est ça.
Hein? Parce que une résurrection qui serait une réanimation du corps, on est plutôt dans les séries américaines, quoi. Mais on n'est pas américaine ou française maintenant. Mais en tout cas, on n'est pas dans la foi chrétienne. Hein?
Alors, ça veut dire quoi une résurrection spirituelle si on approfondit un peu?
La résurrection spirituelle veut dire que ce que je suis, mais dans mon être profond, est appelé, je dirais, à ne pas disparaître, à être devant Dieu.
Votre âme, quoi.
Mon âme, mais pas coupée, voilà, pas une âme qui aurait oublié tout ce qu'a été ma vie, etc.
Mmh.
C'est pas au sens où les philosophes platoniciens en parlaient, quoi. L'âme s'en va, et voilà, et parce qu'elle fuit et elle oublie. Bon, rien de ce que nous avons vécu n'est appelé à être oublié. Hein.
C'est pour ça que la résurrection commence dès maintenant.
Elle commence
dès
maintenant.
Parce que tout ce qui est positif, qui est force d'amour dans notre vie, est voué à durer pour toujours.
C'est ça. C'est en ce sens-là qu'on parle de résurrection. Mais la résurrection de la chair a été, quand on a commencé à parler de la résurrection de la chair, c'est pour dire qu'on n'était pas simplement des esprits désincarnés.
C'était pour distinguer du platonisme.
Oui, fondamentalement pour préciser que notre identité, avec toute notre fragilité, hein, elle fait partie de nous et ce n'est pas mauvais en soi.
D'accord.
Alors que il y a toute une pensée philosophique pour qui la matérialité, tout ça c'est mauvais, quoi. Ça ne va pas. Hein. Non, le monde n'est pas mauvais. Maintenant, nous utilisons quand même, faut le rappeler, hein, je le rappelle aux auditeurs et auditrices, que tout ce que nous disons là, ce sont des images parce que nous n'avons pas d'expérience directe de ce qu'est la résurrection.
Hein? Alors, si on regarde le Christ, si on regarde le Christ ressuscité dans l'Évangile, enfin ce qu'on nous en dit, quels sont quand même les enseignements, enfin les
caractéristiques,
les caractéristiques du Christ ressuscité.
Bah, ces caractéristiques, elles sont assez simples et pas faciles à expliquer. Il est, il n'est retenu ni par des questions de lieu, de problèmes matériels ou de temps. C'est-à-dire qu'il peut, il est au milieu de nous, alors que les portes sont fermées, dit-on. Mm-hmm. C'est-à-dire que le fait qu'on soit replié, refermé, qu'on ait verrouillé les portes, n'empêche pas d'être au milieu de nous. Mais on ne dit pas qu'il a traversé la porte.
Oui, c'est bon. Ça, c'est pas le plus important.
Voilà, on dit que c'est exactement le même qu'avant sa mort, hein, quand il dit à Thomas, regarde mes mains, mes pieds, etc. Ça veut dire que les blessures ne sont pas refermées, ça signifie que on revient pas à un état antérieur dans lequel finalement on n'aurait pas souffert, il n'y a pas de problème ni rien. Il va pouvoir dire en même temps, je m'en vais et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bon, donc il se fait reconnaître par les disciples d'Emmaüs en partageant le pain et en même temps il disparaît et ça ne les inquiète pas plus que ça, ils sont heureux de l'avoir rencontré et on a l'impression que qu'il est toujours là avec eux. Pourtant, il a disparu, il est invisible. Donc, c'est un état bizarre dans lequel c'est le même et c'est plus pareil.
Ouais.
Voilà, c'est à peu près ça qu'on peut dire du Christ ressuscité.
Et il disparaît parce qu'il ne peut pas... il peut pas s'imposer, quoi.
Il peut pas s'imposer. Tout ce qu'il a...
Il transmet seulement.
Tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait. C'est pour ça que par exemple lorsqu'il parle avec les pèlerins d'Emmaüs, il ne va pas en rajouter en disant tiens, j'ai oublié de dire des choses, j'ai été arrêté un peu trop vite, non, il leur explique pourquoi c'est arrivé, mais il ne rajoute rien de plus, il ne rajoute pas un enseignement supplémentaire. Il ouvre leur intelligence.
D'accord.
Voilà. Et quand il va rencontrer les autres, il dit « Rappelez-vous ce que je vous ai dit quand j'étais encore au milieu de vous, etc. » C'est-à-dire que il pourrait peut-être rester encore dans ce monde 8 jours de plus, 15 jours de plus, 1 mois de plus.
Mais ça ne changera rien.
Mais ça ne change rien.
Une fois que tu as fait ton travail, tu n'as plus besoin d'être là.
Exactement. Tout maintenant, c'est dans l'esprit. Cet esprit, donc on va prier, l'invoquer sur nous à la Pentecôte, notamment. C'est dans l'esprit, c'est à nous de poursuivre son œuvre. Voilà. Il est vivant. La preuve qu'il est vivant, c'est que son esprit est toujours à l'œuvre. Et dans cet esprit, on y va.
Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. S'il rencontrait ton envie, suffit de lui parler, lui demander, c'est ton créateur. Il a changé ma vie, il a chassé mes peurs. S'il rencontrait ton envie, suffit de lui parler, lui demander, il viendra dans ton cœur. Moi je te promets, t'as ma parole, un jour Dieu va se manifester. Ça prendra tant que ça prendra, en tout cas il va arriver. Je sais ni quand ni comment, c'est pas moi qui commande. Comme Moïse au buisson ardent, pour toi Jésus va se révéler. Il faut ouvrir ton cœur, donc t'éteins Twitter. Tu te mets dans ta chambre, en silence tranquille. Puis tu lui dis les mots que tu veux, comme un ami à qui on peut te confier, s'abandonner, sans pas sans besoin d'être pompeux. Tu peux lui raconter ce qui passe par la tête, tes erreurs de conduite, tes joies, y'a rien qui lui paraît bête. De toute manière il te connaît, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a désiré depuis toute éternité. S'il rencontrait ça te paraît fou, il faut que tu poses un acte de foi, que dans ton cœur tu dises oui, tu dises go, tu dises feu. Car il est écrit pour toi, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, frappé on vous ouvrira. Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, j'en ai envie, je veux te rencontrer. Il a changé ma vie, il a changé mon cœur. S'il rencontrait ton envie, suffit de lui parler, lui demander, c'est ton créateur. Il a changé ma vie, il a chassé mes peurs. S'il rencontrait ton envie, suffit de lui parler, lui demander, il viendra dans ton cœur. Ouais, Jésus, c'est un ami, avec lui j'ai des discussions. Mais j'avoue, parfois je parle trop, il est carrément patient. Je lui demande souvent son avis sur mes projets ou mes envies. Pour l'album, le producteur, l'initiateur, c'est lui. Donc je peux témoigner.
éloigné, Dieu n'est pas éloigné. Il t'aime comme tu es, il veut t'accompagner. Peu importe ta vie, il veut créer une amitié où tu peux rigoler, être aidé et même pleurer dans ses bras. Que tu sois braqueur de banque, vendeur de banquette, amateur en claque et tout juste étudiant. T'es 16 ou 30 ans, tant que tu l'attends, tu trouveras dans ta quête. Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, j'en ai envie, je veux te rencontrer.
Il a changé ma vie, il a changé mon cœur. S'il rencontrait ton envie, suffit de lui parler, lui demander, c'est ton créateur. Il a changé ma vie, il a chassé mes peurs. S'il rencontrait ton envie, suffit de lui parler, lui demander, il viendra dans ton cœur.
Cogitéo avec le père Jacques Versinger.
Oui, alors donc la résurrection, on dit que c'est le fondement de la foi chrétienne.
Oui,
c'est quand même assez profondément humain, oui. Je trouve, parce que d'une part, comme vous l'avez dit, l'expérience, c'est pas une autre personne, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu tout ce qu'il a vécu.
Voilà.
Et d'autre part, quand il disparaît. Il laisse un héritage en partage et à d'autres de le faire fructifier. Et donc, d'une certaine manière, il y a une très grande confiance dans les êtres humains.
Tout à fait. Alors, en sachant qu'ils seront dignes ou pas de confiance, c'est toutes ces paraboles, hein, notamment la parabole des talents, évidemment. Hein, donc, il s'en va. Et maintenant, c'est à vous de mettre en œuvre. Alors après, il y a ceux qui mettent en œuvre, chacun selon ses aptitudes. Puis il y a celui qui veut pas, voilà, qui refuse, qui enterre ça, et parce qu'il ne veut pas, se prendre de risques ou ne veut pas travailler, quoi. Donc une grande partie des paraboles du Christ sont pour nous apprendre à vivre en lien avec lui au-delà de sa présence physique. C'est souvent ça. Dans Saint Jean, par exemple, il y a de longs discours où Jésus les prépare à vivre sans lui. Hein? Pourtant, il est ressuscité, d'accord, mais maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Hein? La résurrection n'est pas un prolongement. C'est pas comme au football. Voilà, on va jouer les prolongations puis les tirs au but.
Ouais, donc
c'est pas comme ça que ça se passe.
C'est vraiment important d'apprivoiser ce mystère-là, parce que on peut se tromper quand même. On peut penser que la résurrection, c'est quelque chose de soit de physique seulement, soit de peut-être de figé, alors qu'en réalité pas du tout. Enfin, ça.
Non, pas du tout. Nous sommes appelés nous à rentrer dans cette dynamique, puisque la résurrection du Christ est la condition de la nôtre, et dire, et à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique, déjà, vous êtes sur un chemin de résurrection vous-même.
Hein. Ouais, c'est ça.
C'est ça le principe.
Hein. Et donc, finalement, on est déjà en phase de résurrection,
oui.
et quand on sera vraiment ressuscité, on s'en rendra peut-être même pas compte. Parce que ça sera la suite, la continuation d'un chemin qui a déjà été commencé.
Oui, alors ce que je dis parfois, puisque je suis prêtre, donc il m'arrive de présider les obsèques et de
prêcher sur la résurrection.
Forcément. Et je dis, de temps en temps, je dis, voilà, il est parti sur un chemin, et ce qui l'attend à l'arrivée, c'est pas un paysage inconnu. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, j'ouvre les yeux sur la résurrection et je me sens, si j'ai essayé de vivre les valeurs de l'Évangile, quelque part, j'ai l'impression de me retrouver enfin chez moi.
C'est ça, oui.
Voilà. Hein? D'ailleurs, ça sera dit autrement dans l'Épître aux Hébreux, hein, dans le Nouveau Testament. Enfin, notre patrie n'est pas là. Notre demeure, là pour l'instant, nous sommes en caravane, quoi, hein, nous sommes sous la tente, nous sommes en chemin, mais notre véritable patrie, notre véritable demeure, notre maison, elle n'est pas là. Hein. Et le monde de la résurrection, on peut le comparer aussi à enfin chez moi. Enfin, et donc, plus exactement, on dit, enfin chez nous.
Se préparer à mourir, en fait, ça veut dire se préparer à ressusciter. Quoi.
Exactement. Exactement. Mmh. Donc, on a cette logique, mais qu'on oublie parfois. Hein, donc, ressusciter spontanément, hein, c'est un petit peu, comment dire, continuer à vivre. Alors que pour les premiers chrétiens, ressusciter, c'est enfin vivre,
ouais.
Ou vivre infiniment plus.
Bien sûr, oui. ce ne sera pas du tout le même style de vie. Enfin, c'est une vie en plénitude, celle qu'on peut déjà toucher quand on aime, quand on se donne, quand on donne.
Oui, c'est ça.
On construit un peu le royaume.
Quoi. Oui, c'est des échantillons ou des germes de résurrection.
Mmh.
Et c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer les deux. Et en même temps, c'est vraiment différent. Mais quand Jésus est ressuscité, ce qu'il dit à ses disciples, c'est « Rappelez-vous ce que je vous ai dit.
Mmh. »
Tout simplement, il ne dit pas « Attendez, je viens du ciel et j'ai appris des choses extraordinaires que j'avais oublié de vous dire ou que j'en découvre. »
Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que le fait de ressusciter ne l'a pas davantage éclairé sur ce qu'est la résurrection.
Non, ça atteste simplement la vérité de ce qu'il avait dit avant. Voilà. Ma résurrection, si j'espère ressusciter, attestera que chaque fois que j'ai essayé d'être à ma manière un peu vrai, un peu honnête, un peu bon, que ces choses-là, c'était bien le bon chemin.
D'accord. Et quand même, la résurrection, c'est pas, enfin, c'est un peu une récompense.
Alors, on peut le penser comme ça. Mais
parce que bon, on a vendu quand même beaucoup de choses pour.
On a vendu
des indulgences pour être sûr de ressusciter.
Ah oui, ça c'est un autre problème là. Ça c'est des.
Non mais voilà, si ça se monnaie, ça va pas non plus.
On peut le penser comme une récompense, mais en fait, la résurrection, c'est vivre et comment dire.
Ça se mérite ou pas?
Ah. Personne ne mérite de vivre, mais comme personne ne mérite vraiment de mourir non plus. Non, ce que je veux dire, c'est que Dieu est Père et la nature même profonde du Père, c'est de vouloir la vie de ses enfants. C'est pas de chercher lesquels méritent de vivre. Voilà. La résurrection est l'achèvement de l'œuvre de Dieu.
Ouais.
C'est
plus intéressant la résurrection que le paradis, je trouve. Non.
Le paradis est une image. Voilà pour essayer d'expliquer dans un pays, où une des plus belles choses qu'on pouvait rêver, je suppose, c'était d'être au soir tombant en compagnie d'amis dans un jardin, se promenant avec des ruisseaux, des arbres fruitiers,
etc. Oui, mais ça nécessite. Enfin, c'est aussi une reprise d'une idée de l'Antiquité, le paradis.
Bien entendu.
Parce que si un paradis, il y a un enfer, mais finalement, est-ce que c'est vraiment chrétien, ça?
Alors ça, c'est autre chose. Le paradis et l'enfer, c'est... La Genèse parle du paradis, mais elle ne parle pas de l'enfer.
Bah oui, c'est pour ça.
L'enfer, de toute façon...
Celui qui refuse la résurrection, celui qui s'enferme, en fait.
Il y a plusieurs concepts pour parler de ça. Certains pensent que de toute façon la résurrection c'est la vie et que celui qui n'est pas dans la vie est dans la mort. Mais la mort n'est pas une punition, c'est une absence.
Ouais. C'est pour ça. Oui, il y a une confusion là parfois.
Oui, le fait de punir, ça c'est autre chose. Là, ça correspond à d'autres représentations. Mais en soi, de ne pas vivre n'est pas en soi une punition. C'est une absence de vie.
Mmh.
Bon, voilà. Et c'est le néant. Hein. Dieu ne veut pas le néant. Maintenant, on peut penser la punition, on peut penser purification, de dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'être décapés pour pouvoir vraiment entrer dans la vie. Mais ce n'est pas une punition, c'est un décapage. Mmh. là encore, j'allais
dire... Ce n'est pas Dieu qui décape, hein, c'est les circonstances.
C'est les circonstances, ou c'est Dieu qui nous ouvre enfin les yeux, et quand on découvre l'ampleur des dégâts, ben voilà, il nous faut du temps et certainement un peu de souffrance pour découvrir, en découvrant tout ce qui est le chemin qui reste à faire. Mais est-ce qu'on est dans une logique d'enfer ou de punition ? Là, c'est autre chose, hein. C'est compliqué. Quand on parle du paradis, bon, d'accord, les images ne sont pas toujours très justes, mais quand on parle de l'enfer, les images ne sont pas forcément très justes non plus, où on essaie de décrire une espèce de... Alors, je connais bien les images d'Apocalypse, l'enfer, pour le diable, ses anges, etc. Mais en fait, derrière les images, la seule idée qu'on puisse avoir, c'est que... Toute réalité n'est pas appelée à durer éternellement. Hein. Tout ce qui est basé sur la violence, la haine, la justice, etc., ça, faut que ça disparaisse. Quoi. Ça ne peut pas durer éternellement.
Oui, c'est ça.
Maintenant, les gens qui en sont porteurs, puis là aussi, vous avez des gens qui sont dans des perspectives de violence, etc., puis quand on cherche un peu dans leur histoire, on n'arrive plus trop à savoir si ce sont certainement des coupables, mais c'est en même temps des victimes. Mmh. C'est compliqué. Ouais. Hein. Donc, on cherche.
D'accord. Enfin, toujours est-il que la résurrection, elle se manifeste aussi par des guérisons, quoi. Donc, c'est aussi c'est cette force qui va bousculer les fragilités ou qui va leur donner un sens, quoi.
Disons que tous les miracles sont des annonces de résurrection. Donc l'idée que quelqu'un va se remettre debout, parce que ressusciter, c'est se remettre debout. Hein.
Qui va se pardonner dans le pardon, il y a déjà la résurrection.
Disons qu'il y a être accueilli. C'est-à-dire que là, je te pardonne, ça veut dire tu peux venir t'asseoir avec moi, je vais pas te chasser, etc. Voilà, c'est déjà... déjà une relation qui est reconstruite, c'est déjà un des signes de résurrection. De même qu'enfin quelqu'un qui se met à voir, quelqu'un qui peut se mettre à parler, qui se met à entendre, qui peut tendre la main, etc.
Qu'on se libère, quoi, de quelque chose qui nous entrave, quoi.
Qui entrave la relation.
Oui, c'est ça.
C'est toujours pareil, parce que voilà, ça ne sert à rien de m'ouvrir les oreilles si je n'ai pas envie de vous écouter. Ça ne sert à rien que je puisse parler si je n'ai pas envie de vous parler. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui, à travers notre corps, exprime la capacité de relation est guéri par le Christ. Et ça, ce sont les annonces directes de la résurrection. Jusqu'à cette résurrection finale où plus rien, jamais... et nous empêchera de nous parler, de nous entendre, de nous rencontrer. Enfin libéré de toutes nos peurs, de toutes nos pesanteurs, nos narcissismes, nos timidités, tout ce qu'on veut, quoi. Nos instincts de possession, enfin, tout ce qui fait que la relation est malade.
Eh bien, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête là.
Eh bien, on pourra en parler éternellement sans doute, mais...
faut le vivre, quoi.
Il faut le vivre.
C'est notre...
Exactement. Très bien.
Paire de manches.
Exactement. Bon, eh bien, bonne résurrection, ma chère Marie-Pierre.
Merci à vous aussi, Père Vercinger.
Merci.
À très
et vous
vite.
Aussi, chers auditeurs et auditrices.
Ah oui, surtout.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci.
Au revoir.